Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, Pékin, ville cadenassée en raison du coronavirus. La France, ennemi numéro 1 du Brésil. Le week-end de tous les amendements pour la réforme des retraites. Le rapport qui met en cause la direction de l'usine Lubrizol de Rouen. Et enfin, une bulle éco qui traite ce samedi des créations d'emplois. Selon les derniers éléments livrés par la Commission nationale chinoise de la santé, l'épidémie de coronavirus aurait fait plus de 720 morts, plus de 31 000 cas de contamination. En visite cette semaine à Wuhan, au centre du pays, épicentre de l'épidémie, la vice-première ministre Sun Shenlan a ordonné aux autorités locales d'adopter des mesures de temps de guerre pour rechercher les habitants atteints de fièvre en ratissant les quartiers. Rien de tel à Pékin pour l'instant, moyennant quoi depuis 10 jours, les 21 millions d'habitants de la capitale vivent au ralenti. Pékin, capitale fantôme, c'est un reportage de Stéphane Pambrin.
C'est l'un des quartiers les plus fréquentés de Pékin. Le quartier de Sanlitun, très prisé des Français, est désert. Depuis 10 jours maintenant, la plupart des habitants restent confinés chez eux. Ils ne sortent que pour acheter à manger, le visage barré d'un large masque de protection. Pour les restaurateurs français, c'est une catastrophe. Benjamin Devos est à la tête d'une chaîne de 15 boulangeries en Chine.
Bah aujourd'hui, ça se passe pas forcément très bien. Les rues sont désertes, on a quand même beaucoup moins de clients. Donc on espère juste que ça va pas durer trop longtemps. On est passé d'un Pékin frétillant, bougeant, motivant, où les gens ont toujours envie de faire des choses avec des nouvelles idées et il y a des gens partout. Il n'y a pas un moment où on peut s'ennuyer, à des rues complètement désertes.
Les Français n'ont pas accès au crédit en Chine et le gouvernement ne propose pour l'instant aucune aide aux entreprises. Seule obligation, payer ses employés, qu'ils viennent ou non travailler. Certains craignent déjà de devoir mettre la clé sous la porte. C'est le cas de Marianne Daquet qui a monté il y a 7 ans à Pékin une école d'art pour les enfants.
J'aurais tout perdu le projet de ma vie en Chine, ça fait 15 ans que je suis là, perdu le tremplin en quelque sorte pour la suite des événements. Après cette maladie, j'aurais plus rien.
Sans élèves et sans revenus, l'avenir est sombre pour elle, comme pour tous les entrepreneurs français qui ont tenté l'aventure chinoise. Si officiellement les entreprises pourraient rouvrir dès lundi, nul ne sait combien d'employés seront prêts à braver la peur du virus pour sortir dans les rues et se rendre au travail.
Et Hong Kong a imposé il y a quelques heures des mesures de quarantaine drastiques. Tout voyageur venant de Chine continentale doit s'isoler 2 semaines chez lui ou à l'hôtel, ou bien être envoyé à défaut dans un centre d'hébergement ouvert par les autorités. 5 nouveaux cas de personnes contaminées ont été repérés en France, 4 adultes et un enfant, dont l'état de santé n'inspire pas d'inquiétude, selon la ministre Agnès Buzyn. Il s'agit d'un cluster, c'est-à-dire d'un regroupement de plusieurs cas autour d'un cas initial. En l'occurrence, un ressortissant britannique qui a séjourné à partir du 24 janvier pour quelques jours à Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie, de retour de Singapour. L'opposition russe brave aujourd'hui les forces de sécurité dans les rues de Moscou à la faveur de mobilisations contre un arsenal de réformes constitutionnelles dégainées il y a 3 semaines par le Kremlin qui ont conduit à la démission du gouvernement. Lors d'un discours fleuve, Vladimir Poutine avait alors évoqué de manière très vague la question d'un changement à l'article qui limite le nombre de mandats présidentiels. Au même chapitre, les circonvolutions en moins. Le tout-puissant dirigeant du Turkménistan, pays d'Asie centrale riche en gaz, Gurbanguly Berdimuhamedov, a nommé son fils ministre de l'Industrie et de la Construction, lui donnant ainsi la main sur les lucratifs projets immobiliers du pays, annonce en matinée d'un média d'État. Un triste relevé maintenant qui vient alimenter l'argumentaire du chef de l'État français s'agissant de la déforestation en Amazonie. Elle a plus que doublé en janvier par rapport au même mois de l'an dernier, avec plus de 280 km² déboisés, un record d'après les données officielles préliminaires rendues publiques hier. L'Amazonie est plus qu'une pomme de discorde entre Brasilia et Paris. Anne Vigna.
Il aura donc suffi de la déclaration du président Macron de vouloir internationaliser l'Amazonie pour que la France devienne la principale menace militaire pour le Brésil dans les 20 prochaines années. C'est un rapport secret du ministère brésilien de la Défense qui l'affirme et que le journal La Folia de São Paulo a pu consulter. Selon le quotidien, ce rapport a été rédigé par près de 500 militaires brésiliens après une dizaine de réunions au ministère de la Défense ces derniers mois. Et dans ce rapport, la France est le seul pays cité comme une menace. Via la Guyane, la France partage une frontière de 730 km avec le Brésil en pleine forêt amazonienne. Les militaires brésiliens ont imaginé plusieurs scénarios, comme celui où la France demande l'intervention de l'ONU et mobilise les troupes postées en Guyane pour occuper des territoires frontaliers. Ce rapport montre que Jair Bolsonaro n'a pas été le seul à s'indigner des paroles d'Emmanuel Macron quand il avait fait appel à une mobilisation de toutes les puissances pour défendre l'Amazonie face aux incendies l'été dernier. Les militaires brésiliens partagent le mécontentement de leur président et préparent la défense.
Correspondance d'Anne Vigna à Rio de Janeiro. En Allemagne, la crise due à une alliance inédite entre élus régionaux de droite modérée et d'extrême droite avec ce matin le limogeage de Christian Hirte, commissaire du gouvernement aux États régionaux de l'Est de l'Allemagne, qui s'était réjoui d'un tel attelage. Christian Hirte priait de démissionner dans la matinée par la chancelière allemande Angela Merkel. En France, la bataille parlementaire sur la réforme des retraites continue à l'Assemblée nationale ce week-end. En déposant 19 000 amendements, la France insoumise a décidé de ralentir l'examen du projet de loi qui doit arriver dans l'hémicycle le 17 février prochain. Obstruction parlementaire massive à portée limitée compte tenu des textes, selon Benjamin Morel, politologue, maître de conférence à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, sollicité par Pierre Neveu.
Il faut relativiser, si vous voulez, les capacités d'obstruction de l'opposition aujourd'hui. C'est-à-dire que depuis la réforme constitutionnelle de 2008, depuis la loi organique de 2009, on a des dispositions, notamment le temps législatif programmé, qui permettent quand même de très largement court-circuiter les manœuvres d'obstruction. D'où également les cris d'orfraie de Jean-Luc Mélenchon quand on réduit le temps de débat sur un amendement. Si vous voulez, là aussi, il y a une bataille de communication dans une opposition qui serait bridée, etc. Il y a une troisième manche, c'est la manche du Sénat. Et au Sénat, de fait, la majorité sénatoriale n'est pas en raccord avec le gouvernement. Et là, il va y avoir une vraie question. Si jamais le Sénat a envie de faire durer, ne siéger que 3 jours par semaine, c'est possible. Ne pas siéger de nuit, c'est possible. Écouter chaque parlementaire sur chaque article, sur chaque amendement pendant un temps important, c'est possible également. C'est une arme qu'emploie très rarement le Sénat, mais qu'il a déjà employée, et chaque fois avec succès. Après, l'électorat de centre-droit, à mon avis, serait moyennement heureux de voir les sénateurs rentrer dans une guérilla parlementaire. Mais s'ils veulent vraiment y aller, ils peuvent y aller.
La catastrophe de Lubrizol aurait-elle pu être évitée? Le Monde et Mediapart révèle que 3 jours avant le gigantesque incendie, la compagnie d'assurance de l'entreprise lui a transmis un rapport qui met en lumière les failles des installations et les mesures de sécurité à prendre pour éviter le pire sur le site. L'assureur alerte par exemple Lubrizol sur la présence dans un bâtiment de grands conteneurs en plastique qui, je cite, fondraient rapidement et se répandraient sur le sol en cas d'incendie, créant comme un grand feu de piscine. Fin de citation, et par là même détruirait un bâtiment. C'est précisément ce qui s'est passé le 26 septembre dernier. Olivier Blond, président de l'association Rouen Respire, est tout bonnement consterné.
Je suis atterré parce que ce que ce rapport montre, c'est que cette tragédie, elle était évitable, parce que donc les experts avaient anticipé tout ce qui allait se passer et parce qu'ils avaient donné des pistes pour empêcher que l'incendie se produise. Et c'est ça qui est terrible, parce que ni Lubrizol, ni la préfecture n'ont pris les mesures qui s'imposaient. Ce que ce rapport montre aussi, c'est la myopie étonnante des services de l'État, qui doivent justement surveiller, inspecter ces installations, classer ces réseaux, et qui n'ont pas vu ce risque et qui ont laissé faire l'entreprise alors que d'autres experts avaient vu ça. Donc ça montre que justement notre système de surveillance est complètement insuffisant aujourd'hui.
Des propos recueillis par Farida Nouar dans un communiqué. Lubrizol assure que tous les équipements étaient conformes au moment de l'incendie. Il y a quelques minutes, lors d'une réunion de la Fédération française des sports de glace, son président Didier Gayeguet a présenté sa démission. La question de l'omerta reste toutefois posée, l'omerta au sein de telles organisations. Plusieurs anciennes patineuses ont en effet accusé 3 entraîneurs d'avoir abusé d'elles entre la fin des années 70 et le début des années 90 quand elles étaient adolescentes. Et le silence l'a emporté. À quel dysfonctionnement s'attaquer pour qu'à l'avenir, ces crimes soient dénoncés, que la justice puisse passer à l'acte en cas de viol et d'agression sexuelle? Lina Tagui a posé la question à Julian Japper, directeur général du think tank Sport et Citoyenneté.
Si le président d'une fédération a la responsabilité pénale, et moi je pense que ça devrait être le cas, de tout ce qui se passe dans sa fédération, dans ses associations sportives et dans ses clubs, à ce moment-là, c'est lui qui est responsable. Mais le problème, il est plus global. Le problème, il est entre les fédérations, l'État, les associations sportives, peut-être même le secteur privé qui finance tout ça. Il y a en France une non-compréhension du système de gouvernance qui ne permet pas de savoir qui est responsable de quoi. C'est ça le problème. Alors qu'on est face à un cas de droit pénal où finalement la solution, elle est juste de porter plainte. Et qui doit porter plainte? Eh bien, on est tous responsables de ça, finalement. Dans un système complexe, on devrait tous, l'éducateur sportif qui a connaissance de ça, les ministres qui ont connaissance de ça, les présidents de fédération, tout le monde devrait porter plainte. Le système aujourd'hui ne répartit pas les responsabilités. Et dans un système où tout le monde est responsable de tout, in fine, personne n'est responsable de rien. Le monde du sport vit en consanguinité. Il s'autorégule et il s'autocontrôle. Et si on ouvre ce monde à d'autres secteurs, on renforcera aussi les jeunes pépites, les jeunes sportifs, en leur amenant une double formation éducative, voire une triple formation de citoyens. Ça les aidera à se défendre dans tous les domaines et ça les aidera à se réinsérer plus facilement d'ailleurs après leur carrière. Donc le monde du sport a tout intérêt à s'ouvrir et à s'ouvrir au droit commun.
Julien Japper, directeur général du think tank Sport et Citoyenneté.
La bulle économique, Marie Vienno.
Et aujourd'hui, la bulle économique nous entretient des créations d'emplois, 500 000 depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Mais de quel type d'emploi parle-t-on?
Ces deux dernières années et demie, on a créé un peu plus de 500 000 emplois à nouveau. Surtout, depuis maintenant 8 mois, on recrée des emplois dans l'industrie.
Emmanuel Macron s'adresse à des patrons et patronnes d'entreprises de taille intermédiaire qu'il a reçus pour la première fois à l'Élysée au mois de janvier. 500 000 emplois créés, dit-il, depuis qu'il est élu. Dans les faits, on est à 447 000 créations nettes d'emplois depuis juillet 2017, selon l'INSEE. Mais on a sans doute déjà dépassé le chiffre de 500 000, car c'est sans compter les chiffres du dernier trimestre 2019 qui ne sont pas encore parus. Avant d'aller plus loin, quelques précisions. Les créations d'emplois ne sont pas une exception dans notre pays. Chaque année, l'économie française crée beaucoup plus d'emplois de salariés qu'elle n'en perd, excepté en 2009 et dans une moindre mesure 2013 et 2015. Ensuite, ces chiffres ne sont pas des estimations. Ils sont issus des données administratives. Ce sont des chiffres réels. Ce sont uniquement les postes de salariés, pas les indépendants ou les micro-entrepreneurs. Ils concernent le public et le privé, mais pas les travailleurs détachés. Alors, de quel type d'emploi parle-t-on? La part de l'intérim est en baisse, moins 6% en 2019, ça on le sait. En revanche, il est impossible de faire le tri entre les emplois à plein temps et les autres. Un emploi, dans la définition du Bureau international du travail que reprend l'INSEE, c'est une heure de travail par semaine. Alors comment savoir si les emplois qui ont été créés dernièrement sont des emplois à 35 heures ou 2 heures par semaine? Eh bien, les données administratives ne permettent pas de le savoir encore une fois. Mais l'INSEE s'appuie sur une enquête qualitative, l'enquête emploi, qui montre qu'en 2018, le temps partiel concerne 18% des salariés. C'est deux fois plus qu'il y a 40 ans, mais depuis 10 ans, ça stagne et ça décline même légèrement dernièrement. Ce qui augmente, en revanche, sur longue période, c'est la part des cadres dans l'emploi total. Les postes d'ouvriers et d'employés, eux, déclinent. Et c'est de ce côté-là qu'il faut donc chercher pour comprendre les divergences d'appréciation entre un pouvoir qui se félicite à raison du nombre d'emplois créés en France et ceux et celles qui constatent qu'ils n'en profitent pas faute de qualification. Une autre piste de divergence se trouve dans la mesure de la pluriactivité.
Bienvenue dans l'État, l'application de travail partagé. Privé, service public, particulier.
Service public, il y a quoi ?
Dans cette fiction radiophonique, le héros consulte chaque matin une application pour trouver du travail.
Quatre personnes sont en train de regarder cette
annonce. Ok, c'est bon, je prends.
Cette réalité, beaucoup de livreurs ou de taxis l'expérimentent déjà, mais pour l'heure, les non-salariés pèsent 11% de l'emploi total et c'est moins qu'il y a 30 ans. Sauf que depuis 10 ans et la création du statut d'auto-entrepreneur, le non-salariat progresse de nouveau. Aujourd'hui, ce ne sont plus des petits commerçants ou des agriculteurs, mais une fois sur trois, des micro-entrepreneurs. Et dans 3 cas sur 10, des micro-entrepreneurs qui cumulent ce statut et un emploi salarié. C'est ça, la pluriactivité. Elle existe aussi chez les personnes salariées et concerne au total 8% des personnes en emploi en 2016, soit 2 200 000 personnes. Si le nombre de ces pluriactifs augmente, et on le saura dans 2-3 ans, cela aura un impact sur les créations d'emplois de la deuxième moitié du quinquennat d'Emmanuel Macron, car l'INSEE ajuste les chiffres de la création d'emplois salariés, les 500 000 dont on parlait au début, en fonction de cette pluriactivité déclarée. Cela pour éviter que le héros de notre série, par exemple, éboueur en début de journée et livreur de repas à l'hôpital à la fin, ne compte pour 2 emplois, ce qui statistiquement paraîtrait positif, alors que la réalité ne l'est pas, puisqu'il n'arrive pas à joindre les deux bouts avec un seul emploi. Avec la polarisation du marché du travail vers les postes qualifiés, cette pluriactivité est aussi à surveiller.
Bonsoir, votre repas chaud du soir.
Et merci à vous, Marie Viennot. Quelques mots de la météo de l'après-midi. Pluie de l'Aquitaine et du Poitou-Charentes au Benelux, de Midi-Pyrénées vers le Grand Est, ainsi que Auvergne, Rhône-Alpes, PACA et Corse. Alternance de nuages et d'éclaircies. Température 8 à 12 degrés au nord de la Loire, 12 à 17 degrés au sud. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue, à la technique Sylvain Latu.